Yemunla, vous écoutez Karukérama, mon podcast sur la représentation de la Caraïbe au cinéma et à la télévision. Je m'appelle Patra et je vous présente le hors-série numéro 3 dédié aux enjeux de représentation de l'esclavage dans la fiction audiovisuelle française. C'est un hors-série en 6 parties, voici l'épisode 1. Aujourd'hui, on se retrouve pour un format spécial. Le sujet de la représentation de l'esclavage me tient à cœur, mais je n'avais pas envie d'analyser un film sur ce thème au mois de mai, mois des célébrations des abolitions en France. Pour être franche, à ce stade de ma vie, analyser une fiction audiovisuelle sur l'esclavage ne me passionne pas particulièrement pour deux raisons. La première, c'est que les œuvres accessibles facilement sont anglophones. La deuxième, c'est que j'ai déjà écrit deux dossiers sur le sujet entre 2016 et 2017. Le dossier numéro 1 est composé de 7 articles sur la représentation de l'esclavage transatlantique dans les fictions audiovisuelles, et je fais une comparaison avec les œuvres françaises, anglaises, américaines, brésiliennes. Et le dossier numéro 2 est un répertoire musical de 30 chansons racontant l'histoire de l'esclavage. À la base, j'avais publié sur myin5.com, mais tout est désormais disponible sur karukeramon.com. Je ne vous cache pas que si je n'avais plus abordé le sujet ces deux dernières années, c'est tout simplement parce que ces dossiers avaient été épuisants à gérer mentalement, alors que j'étais au tout début de ma réflexion sur mon identité de femme noire, de femme afro-caribéenne, de femme guadeloupéenne et française. Aujourd'hui, nous sommes le 27 avril 2020. Le décret de la seconde abolition de l'esclavage en France a été signé le 27 avril 1848. 172 ans plus tard, quel est le récit construit autour de cette histoire de l'esclavage dans la Caraïbe ? Du point de vue français, qu'a-t-on considéré comme important de transmettre pour alimenter la mémoire collective ? Ces questions, je me les posais en écrivant ces dossiers en 2016 et 2017, et je me les pose encore aujourd'hui. Je vous présente donc mon petit guide de la représentation de l'histoire de l'esclavage dans la fiction audiovisuelle française. Le premier point de mon guide s'intitule « À quelle époque créer une histoire sur l'esclavage ?» Il est plus facile de créer une intrigue à rebondissement autour de moments clés de la grande histoire parce que le spectateur n'a pas besoin de beaucoup d'explications, et encore quoique, hein. Mais en tout cas, les guerres, les révoltes ou les périodes de combats politiques, voire idéologiques, sont propices à exacerber des émotions universelles comme la colère, la joie, la peur, le doute, le courage, la fierté. L'autre possibilité est de faire un focus sur un événement que la grande histoire n'avait pas retenu, mais avec une charge émotionnelle tellement forte que cet événement ensuite entre dans la grande histoire. Je prends pour exemple le film britannique Belle, Dama Asante, sorti en 2013. Désolé si je vous le spoil, mais le film n'a pas volonté de mettre en scène directement l'esclavage dans les colonies britanniques du XVIIIe siècle. Par contre, la dernière partie du film est en relation avec le massacre du Zong, qui a vraiment eu lieu en 1781. Cet élément permet donc de rattacher le film à notre réalité et à l'histoire. D'une façon générale, les productions britanniques s'arrangent toujours pour créer un discours sur le courant abolitionniste, mais j'y reviendrai dans un autre point. Le choix de la période historique à raconter est crucial, parce qu'on peut dater la naissance du système esclavagiste légal aux Amériques. Le système se met en place dans le courant du XVIIe siècle. Pour la France, en fonction de ce qu'on veut mettre en lumière, on peut choisir la date de l'édiction du Code Noir en 1685, ou l'autorisation de la traite des Noirs, en 1642, ou alors le début de la colonisation de la Guadeloupe et de la Martinique en 1635. Tout ça, c'est le XVIIe siècle. Une histoire sur la thématique de l'esclavage au XVIIe siècle sera complètement différente d'une histoire qui se déroule au XIXe siècle. La première stratégie narrative, et qui est certainement la plus efficace en termes de storytelling, c'est le récit sur un temps court. On raconte un seul événement. On peut citer par exemple le film Amistad, réalisé par Spielberg et sorti en 1997, ou encore The Birth of a Nation de Nate Parker, sorti en 2016. Ces deux films racontent une révolte qui ont toutes les deux eu lieu dans la même décennie, mais dans des contextes complètement différents. La révolte d'esclaves dans The Birth of a Nation a lieu en 1831. La révolte d'esclaves du navire l'Amistad a lieu en 1839. La majorité des fictions audiovisuelles sur l'époque de l'esclavage dans les Amériques se déroule dans la première moitié du 19e siècle, parce que nous sommes à un tournant de l'histoire. Le système esclavagiste est désormais puissant et bien rodé, mais il est aussi de plus en plus fragilisé par les combats menés pour la liberté des Noirs. Aux États-Unis, il y a des histoires racontées à différents moments du 19e siècle. J'ai évoqué Amistad et Birth of a Nation. Au passage, je parle de représentation, mais à aucun moment je n'ai dit que c'était de la bonne ou de la mauvaise représentation. Ce n'est pas mon propos aujourd'hui. Je ferme la parenthèse. Pour l'histoire américaine, la guerre de sécession qui a eu lieu entre 1861 et 1865 est la période la plus propice pour raconter une histoire. L'exemple le plus célèbre, je pense, est « Autant en emporte le vent », sorti en 1935. Mais sur ces 15 dernières années, on peut citer le film « Lincoln », sorti en 2012, le film « 12 Years Slave », sorti en 2013, ou encore « Free State of Jones », sorti en 2016. Le dernier exemple en date est le film « Harriet », adapté de la vie de Harriet Tubman, sorti en fin 2019. L'activité d'Harriet Tubman dans le chemin de fer souterrain pour aider d'autres esclaves à s'enfuir commence autour de 1850, donc juste une dizaine d'années avant la guerre de sécession. En France, nous sommes bloqués sur la période fin 18e siècle et début 19e siècle. Politiquement, c'est une période instable, avec des changements successifs rapprochés. Tout d'abord, il y a la Révolution française de 1789, qui a conduit à la fondation de la Première République et à la première abolition de l'esclavage, en 1794. La Guadeloupe l'applique, mais pas la Martinique, qui est alors territoire anglais. En 1802, Haïti devient indépendante, même si elle paye un lourd tribut à la France. Mais ce n'est pas le sujet du jour. En 1802, Napoléon rétablit l'esclavage dans ses colonies. Comme je l'ai dit dans mon introduction, la seconde abolition de l'esclavage a été signée le 27 avril 1848. Alors que le décret est en cours d'acheminement, la Guadeloupe et la Martinique sont au bord de l'implosion. Les révoltes pour la liberté éclatent en Martinique. Le gouverneur de Martinique décide de proclamer l'abolition de l'esclavage le 23 mai afin d'éviter d'autres insurrections. Le gouverneur de Guadeloupe fait de même le 27 mai. La littérature a immortalisé cette tension, cette anticipation de liberté. Pourquoi pas le cinéma et la télévision? Probablement parce que cela serait difficile de mettre en scène cette histoire du point de vue des Noirs et de donner à voir la société post-1848. Le miracle de l'égalité n'a clairement pas eu lieu, sans compter qu'il serait difficile de passer sous silence l'indemnisation des anciens propriétaires d'esclaves. Il faudrait aussi expliquer l'organisation de l'immigration des engagés indiens qui commence dès 1854, c'est-à-dire même pas 10 ans après l'abolition officielle de l'esclavage. C'est une histoire compliquée à penser, compliquée à écrire, compliquée à mettre en scène, mais c'est une histoire qui le mérite. Le Brésil des telenovelas l'a fait en 2013 avec Lado a Lado, qui, même avec ses défauts, pose clairement et sans détour les problèmes d'une société post-abolition. Le Royaume-Uni l'a fait fin 2018 avec le feuilleton The Long Song, qui aborde la période autour de l'abolition de l'esclavage en Jamaïque en 1834. En France, le focus est fait sur les quelques décennies juste avant l'abolition. Avec le long métrage 1802 l'épopée guadeloupéenne, Christian Lara choisit de mettre en lumière une révolte entrée dans la grande histoire. Ce film sorti en 2004 raconte le combat mené en Guadeloupe par le Martiniquais Delcresse, joué par Luc Saint-Éloi, et par le Guadeloupéen Ignace, joué par Jean-Michel Martial, quand Napoléon rétablit l'esclavage en 1802. Quelques années auparavant, Christian Lara avait proposé le film Sucre-Amer, où Jean-Michel Martial incarnait déjà Ignace. Sucre-Amer met en scène un tribunal fictif, réuni pour juger Ignace par rapport à ses actions menées en faveur de la liberté des Noirs, mais contre l'autorité de Napoléon. Alors que la narration est rythmée par des reconstitutions historiques, les plaidoyers et les témoignages permettent de faire des allers-retours dans le temps, mais surtout sur les conséquences que ce système légal pendant environ 250 ans a encore à notre époque. Sucre-Amer pousse à l'extrême la deuxième stratégie narrative dans les fictions audiovisuelles sur le thème de l'esclavage. Une intrigue sur un temps long, c'est-à-dire sur plusieurs décennies et ponctuée par des conflits reconnus dans la grande histoire. C'est en général le modèle adopté pour les fictions de télévision, qui sont plus propices à de longs développements sur la vie d'un personnage. Aux États-Unis, l'exemple le plus célèbre est la mini-série Roots, diffusée pour la première fois en 1977. L'intrigue couvre le destin d'une famille de l'ancêtre capturé en Afrique vers le milieu des années 1760 jusqu'à la fin du 19e siècle, c'est-à-dire après la guerre de sécession et l'abolition de l'esclavage. Et il y a une suite qui raconte l'histoire des années 1880 jusqu'aux années 1960. En France, nous avons le feuilleton Tropicamère, réalisé par Jean-Claude Barnier et diffusé pour la première fois en 2007. L'histoire commence en Martinique en 1788. On est plus d'un siècle après le début de la traite transatlantique. On est juste avant la Révolution française, c'est-à-dire qu'on est sur le point d'entrer dans une période de conflit politique. La fin de l'histoire est après 1802. Haïti est libre, et les Noirs martiniquais peuvent se permettre de rêver aussi à conquérir leur liberté. J'y reviendrai plus tard. En tout cas, que ce soit sur un temps court comme les films de Christian Lara, ou sur un temps long comme le feuilleton de Jean-Claude Barnier, il y a encore de nombreuses périodes historiques à explorer dans le cas français, afin de ne pas rester uniquement sur la Révolution française et sur 1802, parce que les résistances se manifestent dès le début du XVIIe siècle. Tropicamère est l'exemple que je citerai le plus souvent dans ce hors-série. Je peux vous faire une liste d'une dizaine de films sur l'esclavage aux États-Unis. Je peux citer trois productions britanniques récentes. Même pour le Brésil, j'ai vu au moins trois telenovelas sur le sujet. Je dis au moins parce qu'il y a une quatrième dont j'ai trouvé le titre, mais j'ai l'impression de l'avoir vu à la télévision, mais je n'en suis pas sûre. Par contre, les trois autres, j'en suis sûre. Il y en a une, c'était The Telenovela des années 90. J'en parlerai un peu plus tard, mais dites-moi en commentaire si vous avez trouvé le titre de cette telenovela. En tout cas, en France, je reste sur les trois exemples que je vous ai proposés, avec les qualités et les défauts qu'ils peuvent avoir. Parce que l'industrie audiovisuelle française n'a toujours pas fourni d'autres œuvres exploitables. Si vous pensez à l'épisode « Enfin livre » de Joséphine Ange Gardien diffusé en 2019, non. Si vous me parlez du film « Case départ » sorti en 2011, non. Par contre, si vous me citez le téléfilm « Bois d'ébène » pour me parler du cas français de la représentation de l'esclavage, je vous répondrai qu'il cumule des aspects problématiques par rapport aux enjeux de représentation de l'histoire de l'esclavage en France. Et c'est de ça que nous parlerons dans le prochain épisode. Merci d'avoir écouté la première partie de ce hors-série numéro 3. Rendez-vous sur carucaraman.com pour lire mes dossiers sur la représentation de l'esclavage. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux @carucaraman sur Instagram, Twitter et Facebook. Likez, partagez, donnez-moi les 5 étoiles sur Apple Podcast pour que le podcast gagne en visibilité. Prenez soin de vous. Tiens, Bérette.